Tus Christus.
La Tunisie attend son nouveau Premier ministre. La crise institutionnelle qu'a ouverte le chef de l'État dimanche ne laisse pas d'interroger sur l'avenir du pays. Entre incertitude politique et désespoir économique, les Tunisiens aspirent au changement. L'Église catholique tente de les accompagner. L'archevêque de Tunis nous le dira. Les talibans ont débuté leur reconquête de l'Afghanistan à la faveur du retrait des troupes occidentales et des habitants pensent déjà à fuir, si bien que la Turquie craint un nouvel afflux de migrants à ses frontières. Les flammes ravagent la Sibérie, en cause les fortes chaleurs qui l'assaillent depuis des mois. Pour Greenpeace, c'est le réchauffement climatique qui en est responsable. Aussi, l'ONG demande-t-elle aux autorités russes d'agir promptement. Il y a 70 ans était signée la Convention sur le statut des réfugiés. C'était en 1951. Une question plus que jamais d'actualité. Les conflits armés se multipliant et entraînant des déplacements. Éclairage en fin de journal.
Radio Vatican, le journal. Manuela Figi.
Bonjour à tous. En Tunisie, donc, le parti islamiste Ennahda demande au président de revenir sur ses décisions. Dimanche, Kais Saied a créé la surprise en renvoyant son premier ministre et en suspendant les travaux du Parlement, ouvrant ainsi la voie à une crise institutionnelle majeure dans ce pays. Une crise qui se superpose au marasme économique et social qui traverse la Tunisie et qui s'est aggravé avec la pandémie. La population avide de changements a applaudi au geste de son président. Il n'en demeure pas moins que l'incertitude domine aujourd'hui. Dans ce contexte, l'Église tente de soutenir les Tunisiens. C'est ce dont témoigne Mgr Ilario Antoniazzi, l'archevêque de Tunis.
Comme Église, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Parce qu'on a constaté que le peuple était désespéré avant. Pas de travail, l'économie qui est en train de dégringoler de plus en plus, les Covid. Nous, avec le peuple, nous essayons de leur donner de l'espoir. Tout d'abord, en revenant sur l'orgueil du Tunisien d'être Tunisien. Il sait très bien que la Tunisie s'est toujours relevée. Il faut compter sur votre force et sur votre courage, sur votre initiative qui ne vous manque pas ici en Tunisie. Tenir bon malgré tout. Un deuxième point qui est important pour les Tunisiens est un peuple croyant en Dieu. Nous sommes en pleine tempête maintenant. Mais l'espoir est grand sur le président aussi, qu'il puisse faire nous donner quelque chose de meilleur, sur l'orgueil tunisien et surtout sur la foi en Dieu, un Dieu qui ne nous abandonne pas. Et quand Dieu est présent, on peut regarder vers le futur avec un certain espoir.
Des propos recueillis par Gabriela Cherazzo. L'actualité, c'est aussi la visite en ce moment du secrétaire d'État américain en Inde. Anthony Blinken en a profité pour lancer un avertissement aux autorités. Attention à la régression démocratique, a-t-il lancé, insistant sur l'importance du respect de l'état de droit, de la dignité de tous, des libertés fondamentales, notamment la liberté religieuse. Des sujets plutôt sensibles pour le gouvernement de Narendra Modi, accusé de bafouer justement ces libertés. Mais le diplomate américain a surtout mis en valeur les liens privilégiés de son pays avec l'Inde, plus que jamais nécessaires au vu de la crise en Afghanistan. L'Afghanistan où l'avancée éclair des talibans inquiète, à l'heure où les troupes occidentales quittent le pays. Et on apprend ce matin qu'une délégation de talibans justement est en Chine, où elle a rencontré de hauts responsables. Pékin s'est engagé à ne pas interférer dans les affaires de l'Afghanistan, mais au contraire à aider à résoudre les problèmes et à ramener la paix. Fin de citation. Quoi qu'il en soit, de plus en plus d'Afghans tentent de fuir leur pays. La Turquie n'est pas un pays voisin de l'Afghanistan, mais elle est une étape via l'Iran et de plus en plus souvent la destination de ces exilés afghans. Les autorités d'Ankara, qui s'inquiètent d'un nouvel afflux, renforcent les mesures de protection à la frontière. À Istanbul, Anand Lower.
Les autorités turques assurent ne pas enregistrer d'augmentation particulière du nombre de passages à leur frontière avec l'Iran. 55 000 arrestations depuis le début de l'année contre 105 000 en 2020, selon le préfet de Van, la principale province d'entrée des réfugiés afghans. Mais la crainte d'un afflux est là et la Turquie renforce sa frontière. Un mur de béton de 3 mètres de haut est en cours de construction. À terme, il sera long de 295 km. Le mur sera doublé de barbelés et d'une large tranchée, dont 110 km. Ont déjà été creusés et jalonnés d'une centaine de tours d'observation. Le ministre de la Défense a par ailleurs annoncé le déploiement de troupes supplémentaires pour tenter de limiter les passages. La Turquie, qui accueille déjà 4 millions de Syriens et des centaines de milliers d'Afghans, fait aussi savoir à l'Europe qu'elle n'est pas en mesure de gérer un nouvel afflux. La Turquie ne sera ni le garde-frontière, ni le camp de réfugiés de l'Union européenne, a affirmé cette semaine le ministère des Affaires étrangères. Une mise en garde en réponse au chancelier autrichien Sébastien Kurz, qui avait estimé que la Turquie était l'une des mieux placées pour accueillir les réfugiés afghans. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
La tension se ravive entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Des affrontements ont opposé des soldats des deux pays à leur frontière commune cette nuit. 3 militaires arméniens ont été tués. Une trêve a été mise en place dans la foulée grâce à la Russie. Il s'agit du premier incident de ce type depuis la fin de la guerre dans le Haut-Karabakh l'année dernière. En cette période estivale, plusieurs régions du monde se débattent avec des incendies ravageurs comme la Californie, la Sardaigne, mais aussi la Sibérie. Ces terres nordiques connaissent une vague de chaleur exceptionnelle depuis des mois. Selon Greenpeace, une superficie supérieure à celle de la Grèce est déjà partie en fumée entre le mois de janvier et la mi-juillet. L'ONG demande donc aux autorités de Moscou des mesures pour agir contre le réchauffement climatique. Chandidier Revoy.
En Sibérie et jusque dans l'extrême-orient russe, les hectares de forêt et de toundra qui partent en fumée se comptent par millions. Sur la base d'images satellites, Greenpeace estime qu'on en est à 19 millions, soit une surface supérieure à celle de la Grèce. L'ONG attribue l'origine de ces incendies aux éclairs de chaleur provoqués par les températures anormalement élevées que connaît la région. La situation est actuellement particulièrement difficile en Yakoutie, à l'extrême est de la Russie, où des fumées surplombent le Yakoutsk, compliquant le quotidien des habitants de cette capitale régionale. Fin juin, à Verkhoyansk, au nord-est de la Sibérie, on a relevé les températures supérieures à 37 degrés à l'ombre pour 48 degrés répertoriés au sol. Des températures qui provoquent la fonte du pergélisol, ces terres qui autrefois restaient gelées tout au long de l'année et entraînent des glissements de terrain, des effondrements d'immeubles ou encore la libération des gaz contenus dans le sol. Toutes ces raisons poussent les partisans de la lutte contre le changement climatique à exiger une mobilisation accrue des autorités sur cette question. Le réchauffement climatique est deux fois plus rapide en Russie que dans le reste du monde, trois fois au-delà du cercle arctique. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et alors que les catastrophes naturelles sont particulièrement nombreuses et intenses, ce nouveau cri d'alarme lancé par 14 000 scientifiques, les signes vitaux de la planète s'affaiblissent, disent-ils. Tout cela à cause de la surexploitation des ressources. La planète va vers des points de rupture climatique. Pour ces scientifiques, des mesures radicales et urgentes sont nécessaires. Dans le monde, ce sont plus de 82 millions de personnes qui sont forcées de quitter leur maison. Parmi eux, 26 millions ont fui leur pays et la moitié à moins de 18 ans. Ces chiffres, c'est le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui les fournit, alors que cette année marque le 70e anniversaire de la Convention sur le statut des réfugiés, un texte qui définit à la fois les droits des migrants et les obligations des pays qui les accueillent. La Convention de 1951 a été ratifiée par près de 150 pays, mais elle n'a pas mis un terme déplacement forcé. Elle permet tant bien que mal d'en gérer les conséquences dans le contexte de la multiplication des conflits armés. Écoutez Chiara Cardoletti, elle est représentante du HCR pour l'Italie, Saint-Marin et le Saint-Siège.
On a aujourd'hui plus de 149 États qui ont ratifié la Convention. Aujourd'hui, clairement, on a une situation très différente de ce qu'on a vu juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand la Convention a été écrite. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a énormément de conflits dans le monde, des conflits qui sont gérés plutôt par des groupes armés. Et dans des situations comme ça, des énormes vulnérabilités des personnes, aujourd'hui, la question n'est pas vraiment qui est un réfugié, mais qui s'occupe de ces réfugiés. Et c'est là que la Convention avait prévu la question de la solidarité internationale. Et c'est là que la HCR a vraiment essayé, dans une période historique tellement difficile avec tellement de conflits, de s'entourer des États et des organisations internationales qui peuvent aider effectivement à gérer tellement de personnes qui ont fui les guerres, qui puissent effectivement amener des solutions durables à toutes ces personnes qui ne peuvent pas rentrer chez eux.
Des propos recueillis par Giancarlo Lavella. Et puis c'est aujourd'hui que le nouveau président du Pérou, Pedro Castillo, prend ses fonctions, le jour même où le pays andin célèbre le bicentenaire de son indépendance. Plusieurs chefs d'État sont attendus à la cérémonie, dont le roi d'Espagne, Felipe VI. Pedro Castillo est un ancien instituteur et syndicaliste, novice en politique. La tâche qui l'attend est immense. Juguler la pandémie de Covid, relancer l'économie et stabiliser les institutions. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain matin à 8h30 pour un nouveau journal d'information vatican et international. Belle journée à toutes et à tous.